RMC. La et l'amour et vous, Brigitte Lahaie.
Et nous repartons à évoquer tous les fantasmes en compagnie de Sophie Cadalen, qui est avec nous, psychanalyste. Et puis, bien sûr, vous pouvez continuer à nous raconter vos fantasmes les plus fous en nous appelant au 3216. Nous aurons Ève également, qui a fantasmé sur ce gloss plaisir oral. En Love Conseil, est-ce que c'est bien ou pas de travailler en couple? Ce sera le Love Conseil du jour. Notre fil d'Ariane continuera à vous révéler des fantasmes des Français. Et notre guide, ce sera Christophe Médici, qui est docteur en psychosociologie et qui vous donnera quelques conseils pour arriver à surmonter l'épreuve du chômage lorsqu'on est en couple. Voilà. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, Sophie Cadalen, est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes fantasmes? Est-ce qu'il y a des petites différences?
Il y a une dimension aussi culturelle dans le fantasme. D'ailleurs, Ariane le disait, quand on parle de Clooney ou de Sophie Marceau, ça s'inscrit dans une époque, à un moment donné, dans un pays donné aussi. Donc, là aussi, quelque part, les hommes ont à leur disposition certains fantasmes dont la plupart que la plupart s'accaparent et les femmes d'autres fantasmes entre guillemets autorisés, qui est une façon pour eux voilà de déverser leurs désirs, leur fantasmagorie sans trop rien déranger. Donc en ce sens, je dirais dans leur présentation, dans leur apparence, oui, il y a quelques différences, mais dans leur fondement, c'est souvent les mêmes. Il y a où on est objet du désir de l'autre, où on est dominant, où on est voilà l'inconnu, on est pris par l'autre, où on tient la scène, où il y a plein de monde, où toujours une histoire aussi de la dépersonnalisation, où on est, voilà, on existe pleinement, où justement on est tellement pris par la masse ou par l'ignorance de qui on est qu'on n'existe plus et on peut se laisser aller vraiment au désir, au plaisir surtout.
En tout cas, ils sont assez libérés, tous ceux qui nous écoutent, puisque le résultat du vote sur Twitter est quand même sans appel, hein. 79% pensent que en effet, il faut réaliser ces fantasmes. Je crois qu'on est largement au-dessus d'une moyenne nationale.
Ah oui, ben, de toute façon, s'ils écoutent Brigitte Lahaie, l'amour et vous, ils osent déjà réaliser quelques fantasmes.
Ah oui, sûrement, vous avez raison, Sophie. Allez, Alex est avec nous maintenant. Bonjour, Alex.
Oui, bonjour, Brigitte. Bonjour, Sophie.
Bonjour. Vous avez 29 ans et votre partenaire, a priori votre épouse même, dit ne pas avoir de fantasmes.
Bah voilà, en fait, c'est ça. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Du coup, on s'est mariés il y a 3 ans, à peu près. On a un petit ensemble, donc, de notre union à tous les deux, quoi. Mm-hmm. Et en fait, bon, moi, je suis quelqu'un d'assez doux, d'assez psychologue, enfin, du moins, je l'estime. Et, j'essaie de parler avec elle, des choses comme ça, l'amener petit à petit, en fait, à me livrer ses secrets, on va dire. Et, du coup, elle me répète toujours la même chose. Elle me dit que voilà, elle n'a aucun fantasme, à part moi. Et elle me donne pas spécialement de pratiques, de lieux, de choses comme ça.
Juste, rassurez-moi, vous n'êtes pas un fantasme, vous faites l'amour.
Oui, bien sûr. Non, assez régulièrement, quoi. Mais bon, comme on peut, on va dire, je suis routier, donc, du coup, c'est un peu compliqué.
Non, mais je pense, Alex, qu'elle est sincère quand elle vous dit ça. Elle a juste, sans doute, une ignorance de ce qu'est le fantasme.
D'accord.
Donc il faut pas lui poser des questions comme ça directes, il faut plutôt lui faire des propositions. Mm-hmm. Et avec les propositions que vous lui ferez, il y a des choses où elle dira oui, tiens, pourquoi pas, et d'autres non. Par exemple, ça peut être est-ce que tu as pas envie que on fasse l'amour dans le jardin une pleine lune? Est-ce que tu as pas envie que je te mette beaucoup... enfin je dis n'importe quoi, voyez, mais
oui, bien sûr.
Mais c'est vous qui devez lui proposer des petites fantaisies. Et puis, d'accord, il y a des choses qu'elle dira, oui, tiens, c'est pourquoi pas. Voire même la mettre dans des situations qui seront un petit peu différentes. Alors, il faut, évidemment, vous la connaissez, vous avez dit que vous étiez psychologue, donc il faut pas la mettre dans des situations qui pourraient la heurter, voyez.
Oui,
et tout,
bien sûr,
et tout doucement, elle va pouvoir, comme ça, découvrir d'autres choses.
Je rejoins Brigitte. Beaucoup de gens, alors des femmes mais des hommes aussi, pensent qu'ils n'ont pas de fantasmes. On a tous des fantasmes. Par contre, on n'a pas tous la capacité à imaginer des histoires construites avec des scénarios élaborés. Non, ça, voilà, c'est comme dans la vie. Voilà, on pédale pas tous avec des histoires avec plein de choses dans la tête et plein de choses qu'on invente et qu'on brode. Mais il y a beaucoup de gens effectivement Et beaucoup de gens aussi plus verrouillés qu'ils ne se l'imaginent, qui ne laissent pas cette part d'eux s'exprimer en images et arriver jusqu'à leur conscience.
Oui, voilà, oui. Et je pense que c'est beaucoup dans cet état d'esprit-là qu'elle est, j'ai l'impression, plus ou moins, qu'elle pourrait avoir honte ou peur de ce qu'elle pourrait...
C'est ça, oui. Et d'autant plus quand on demande. Et c'est là aussi, Brigitte a raison, c'est que vous auriez plutôt intérêt à être, vous, l'instigateur d'une certaine manière de certains fantasmes, d'accord, force de proposition, comme on dit, mais le côté « dis-moi tes fantasmes », si déjà on ne s'autorise pas tellement à débrider son imagination, mm-hmm, il est complètement inhibant. Voilà, on est comme devant la maîtresse d'école à qui il faut donner la bonne réponse. Qu'est-ce que l'autre veut entendre ?
Voilà, exactement, c'est exactement ça, quoi. Elle réagit exactement de cette façon-là. On dirait plus ou moins, oui, qu'elle se bloque et qu'elle, qu'elle sait plus quoi répondre, quoi. Ouais, mm-hmm. D'accord.
Oui. D'accord. Parce qu'elle aurait envie de vous faire plaisir et en même temps, elle est complètement perdue et donc elle se bloque, en effet. Mais je me permettrai, je sais pas si vous êtes d'accord puisque c'est vous qui avez écrit la belle ambition. Je trouve que dans la question des fantasmes sexuels, c'est un peu comme l'ambition. Il y a des gens qui ont beaucoup d'ambition et puis d'autres qui ont pas finalement, qui ont l'impression de pas avoir beaucoup d'ambition. Et je crois que c'est un peu pareil avec les fantasmes, non?
Oui, oui, oui. Et puis ils n'ont pas tous la même ampleur, ils n'ont pas tous la même puissance. Par exemple, qui n'a pas eu envie à un moment donné de « tiens, au lieu d'aller au travail ce matin, je vais faire un tour dehors, je vais au cinéma ». C'est du fantasme. Qui peut raconter quelque chose de très sexuel, une envie de sortir des clous peut-être, une envie de, voilà, de, même si on va au travail et qu'on, voilà, on va bien se tenir, mais peut-être, voilà... En tout cas, l'inviter, peut-être lui raconter que le fantasme, il se déguise de tas de manières. Elle a certainement eu envie de pas faire ce qu'elle avait à faire et d'aller prendre du temps pour elle et de flâner. Voilà, le fantasme, il se déguise. Et on n'a pas tous, comme dit Brigitte, voilà, la même propension à laisser parler cette espèce de flot de désir et leur puissance. Parce que voilà, on n'a pas cultivé ça ou parce que on ne s'y reconnaît pas.
Alors moi, le conseil que je peux vous donner, Alex, et que je peux donner à tous ceux qui nous écoutent et qui sont avec un ou une partenaire un peu coincé par rapport au fantasme, c'est déjà d'aider son partenaire ou sa partenaire à se faire plaisir. Parce que d'accord, souvent, ce sont des personnes qui, au fond, n'osent pas se faire plaisir indépendamment, c'est toujours par rapport à l'autre. Moi, je remarque que les personnes qui n'ont pas de fantasme, par exemple, seront incapables de juste, si elles sont seules un soir, de se préparer un super plateau repas avec une petite coupe de champagne et quelque chose d'agréable. Vous voyez ? Et ça,
oui, c'est exactement ça. Oui, elle a vraiment du mal à vivre pour elle, j'ai l'impression, des fois, que par le prisme, le mien peut-être, ou même celui de notre enfant. Et c'est vrai qu'elle a vraiment du mal à assouvir ses envies qu'elle pourrait avoir elle-même, quoi.
Voilà. Alors vous imaginez bien, si déjà sur la vie quotidienne elle a du mal à s'ouvrir à ses fantasmes ou à ses plaisirs, comment elle peut y arriver sur le plan sexuel, Alex ? Vous voyez bien qu'il faut commencer par la première marche.
D'accord, ok.
Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous remercie pour tous ces conseils. Vous faites une super émission. Et puis, voilà, quoi, continuez comme ça, c'est génial, quoi.
Merci, Alex. Merci beaucoup.
Allez, au revoir.
C'est mon fantasme, continuez comme ça. David est avec nous. Bonjour, David.
Oui, bonjour, Sophie. Bonjour, Brigitte.
Bonjour.
Voilà, je vous appelle en fait car j'ai réalisé un fantasme que j'avais il y a à peu près 3 ans. Mmh. Donc je suis en couple et il y a 3 ans, nous avons réalisé donc un trio avec mon épouse qui s'est très bien passé. Et alors aujourd'hui,
avec homme ou femme?
Avec un homme.
D'accord.
Mmh. Et alors d'aujourd'hui, donc nous continuons donc le libertinage. Mmh. Régulièrement à me faire des trios avec régulièrement la même personne donc voilà et après donc il s'est avéré que il y a un deuxième fantasme qui est né là-dessus c'est de réaliser donc mon épouse et le libertin de réaliser quelque chose à deux
donc sans vous
donc sans moi.
Mmh. Et oui, alors là, vous voyez, David, vous réalisez un fantasme de rajouter une tierce personne. Bon, ça c'est très bien, c'est un fantasme. Et ensuite, ça devient une réalité. Parce que cette troisième personne, elle revient et elle revient et elle revient à tel point que c'est plus du tout du fantasme. On est vraiment dans quelque chose de si réel qu'à la limite, c'est vous qui pouvez prendre la porte.
Oui. J'avais pas vu ça comme ça.
Mais oui, mais c'est important de voir aussi les choses comme ça. Donc là, il faut que votre femme elle soit claire. Qui est le tiers, c'est vous ou c'est lui?
Non, ça là-dessus, c'est très clair. On a des règles bien spécifiques, hein, aussi bien du libertin que le couple, enfin que notre couple. Après, l'idée ne me dérange pas, dans le sens où ça lui est, enfin, c'est un fantasme pour elle à l'heure d'aujourd'hui. Mais de là à le réaliser, celui-ci, je sais pas.
Et vous, ça déclenche quoi chez vous? Ça évoque quoi? Ça vous fait fantasmer, le fait qu'ils se retrouvent tous les deux sans vous, par exemple?
Alors, ça me fait dans un sens, ça me donne de l'excitation, mais dans l'autre sens, ça me donne un peu de réticence.
Et c'est quoi ces réticences?
La peur, peut-être.
Peur de quoi?
Pas de la suite, hein, parce que les règles sont très claires. Mais la peur, je sais pas comment l'expliquer.
Alors, voyez, David, vous parlez de règles. Vous parlez de règles dans un domaine où c'est finalement l'excitation, l'émotion, les sentiments qui jouent le jeu. C'est pas.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être prudent.
Oui.
Vous avez raison d'avoir peur. Ce qui ne veut pas dire que votre femme risque de vous quitter, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous avez raison d'avoir peur, ça pourrait arriver.
Oui. D'accord.
Après, elle pourrait avoir envie de fantasmer, de faire l'amour avec un autre homme que vous ne connaissez pas. Et voyez, de quelque part, de quelque chose, et d'ailleurs c'est bien ce que vous dites, et c'est bien pour ça que vous témoignez, de quelque chose qui au départ était un fantasme commun, ça va devenir son fantasme auquel vous n'aurez plus beaucoup de prise. Vous n'aurez plus beaucoup de prise, pardon.
Elle vous demande votre autorisation, encore, pour l'instant.
Tout à fait. Alors, au départ, hein, c'était mon fantasme à moi tout seul. Hein. C'est moi qui ai initié ma lame dedans.
Mais ne vous sentez pas coupable, c'est pas...
Non, tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au départ, oui, c'était mon fantasme à moi. Et là, depuis quelques temps, elle me parle de son fantasme à elle.
Oui, et vous n'avez jamais eu, vous, envie d'un tiers qui soit une femme?
Si, mais ça ne se passera pas.
Pourquoi? Elle ne veut pas.
Non, elle ne veut pas, non.
Bon, et bien, si vous avez le droit de ne pas vouloir qu'elle retrouve seule cet homme.
Oui, aussi.
Voyez,
c'était aussi le but de mon appel, hein, d'avoir aussi un peu des conseils.
Bien sûr. Mais vous savez, David, les règles, elles sont toujours modifiables dans un couple, à condition de d'oser s'affirmer et d'oser poser ses limites. Et quand on a un peu peur, il faut l'écouter, cette peur, parce qu'on est quand même dans des dans des zones qui sont parfois dangereuses. Hein.
Oui. Après, je ne regretterais pas d'être passé à l'acte, hein, de réaliser ce fantasme-là. Ni elle, ni moi, hein, d'ailleurs. Les personnes qui ont des fantasmes, qui ont envie de les assouvir, hein, pourquoi pas? Enfin, c'est là-dessus, c'est vrai que quand ça se passe et que tout le monde est d'accord, c'est que du bonheur, hein, y a aucun problème.
Oui, bien sûr, mais quand vous étiez dans ce trio, ben vous en avez profité, ça vous a excité de l'avoir faire l'amour avec cet homme, ça vous a excité de recommencer, sauf que elle a certainement maintenant un peu de sentiment pour cet homme. Excusez-moi, je vous dis les choses le plus vrai possible, parce que c'est comme ça que je peux vous aider. Donc maintenant, elle se dit, ben tiens, finalement, toute seule avec lui, ça serait plus simple, parce que vous devenez légèrement encombrant.
D'accord.
Voyez, donc c'est ça qu'il faut éviter, parce que si elle continue à le voir sans vous, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Alors ça peut évoluer de manière tout à fait négative, et puis elle aura envie de passer à autre chose, et puis elle aura plus envie de le voir. Mais ça peut aussi aller dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il faut faire attention.
Ok. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie de vos conseils.
Je vous en prie, David. On est là pour ça.
Bonne journée.
Au revoir. Jessica, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors moi je vous appelle parce que j'ai plein de fantasmes dans ma tête. Je voudrais faire l'amour dans plein de lieux insolites, faire l'amour avec plusieurs personnes également, mais ça j'ai un peu peur, je ne suis pas encore passée à cette étape. Et en fait, mon petit souci c'est que Bah voilà, enfin, je voudrais faire l'amour dans des lieux insolites ou vite fait le matin, un petit coup rapide et tout. Et mon conjoint, lui, est plutôt lent en termes d'éjaculation. Tout à l'heure, j'entendais votre auditeur qui disait que lui, en 10 minutes, il avait l'impression d'être un éjaculateur précoce, alors que, bah voilà, enfin, moi, mon conjoint, il peut faire l'amour pendant 30 minutes sans éjaculer, et il arrive même qu'on ait, pas souvent, mais bon. Ça arrive assez régulièrement qu'on ait des rapports où moi je jouis plusieurs fois mais que lui n'arrive pas à éjaculer. Donc j'ai essayé déjà d'en discuter avec lui, mais bon, je sais pas vraiment comment aborder le sujet sans le braquer, sans le blesser. Donc voilà, si vous aviez...
Alors, rien ne vous empêche d'avoir un petit rapport rapide le matin, tant pis s'il n'éjacule pas, hein, c'est pas... Il faudrait que vous coupiez la radio, Jessica, parce qu'on s'entend en écho. Merci. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. En revanche, il me semble, ce qu'on entend, Sophie Cadalen, c'est que Jessica, parfois, s'ennuie un peu quand c'est trop long.
Voilà, bah il y a des moments exactement quand j'ai très envie, bon bah il y a des moments c'est très bien, c'est très satisfaisant, mais par moments au bout d'un enfin quand c'est trop long, bah finalement je trouve que ça gâche un peu le rapport.
Bien sûr.
C'est ce que d'une certaine manière disent vos fantasmes. Vous avez envie effectivement de brièveté dans le sens heureux du terme. Voilà, de prendre l'impulsion du désir, le moment vite fait, bien fait. Allez, voilà. Osons-le. Oui, il y a quelque chose sans doute à dire à votre compagnon de ce côté-là. Le lui faire entendre, parce que ce dont vous avez envie, c'est pas des choses infaisables et qui réclament des décors, parce que je crois que ce petit coup vite fait, vous pouvez le faire chez vous, c'est pas forcément sous un porche.
Non, mais oui, bien sûr, déjà, ça peut être chez nous,
Jessica, c'est toujours pareil, je crois, et Sophie Cadalen l'a dit plusieurs fois, il faut aller découvrir aussi ce que cache ce fantasme, et il me semble qu'au fond, ce que vous aimeriez, c'est être plus apte à l'exciter au point qu'il jouisse en vous. Et au fond, vous avez l'impression qu'il est tellement dans le contrôle que vous êtes assez impuissante et assez peu responsable de son éjaculation. Est-ce que je me trompe ?
Tout à fait, oui. Oui, puis que mes anciens partenaires, en général, au bout de 10 minutes, c'était fini. Donc c'était très satisfaisant au début de notre relation de voir effectivement, il était beaucoup plus endurant. Mais aujourd'hui, des fois, je me dis qu'il n'y a pas un souci derrière tout ça.
Alors, un souci pas forcément, mais en tout cas, il fait partie de ces hommes, en effet, qui ont du mal à pouvoir jouir. Alors, est-ce que c'est parce qu'il veut rester dans le contrôle ? Il y a souvent quand même un rapport de dominant-dominé dans cette histoire d'éjaculer ou de ne pas éjaculer, ce qui est évidemment assez inconscient. Hein, donc, il faut voir qu'est-ce qui se joue là chez lui.
Oui, puis lui, il dit que c'est parce qu'il aime faire l'amour, qu'il aime que je jouisse plusieurs fois, qu'il aime que ça dure. D'accord.
Mais il n'entend pas ce que vous aimeriez, vous aussi. Et donc, il garde le pouvoir là-dessus.
Oui, puis je ne sais pas si le fait d'en avoir déjà un petit peu abordé la question avec lui, si je ne l'ai pas bloqué ou si je ne l'ai pas froissé, que du coup, il garde encore plus le contrôle. Quoi.
Ah, bah oui, il a peur de le perdre, hein, vu que vous l'avez un peu découvert, alors attention. Hein.
Mais ceci dit, encourager ce fantasme-là de la brièveté, c'est une façon détournée d'une certaine manière de l'inviter à lâcher peut-être un peu plus vite, parce qu'à force d'avoir des rapports rapides où il ne pourrait pas non plus s'exulter lui, bon, voilà, c'est une façon d'une certaine manière, de ne pas tenir compte de ce que lui impose, inconsciemment sans doute.
Ce qui est dommage, c'est que par moment, j'aurais envie de faire l'amour, même le soir, très tard et tout. Et des fois, je me retiens parce que je me dis, ça va durer une heure et que du coup, ça me saoule d'avance.
Mais bien sûr.
Que des fois, oui, j'ai envie, mais je voudrais un petit coup rapide. Et du coup, des fois, le fait que ça dure trop, là, au début, je suis bien, c'est génial et tout, et puis au bout d'un moment, quand ça dure, intérieurement, ça m'énerve quelque part, et je sais pas comment l'exprimer, je vais pas lui dire.
Mais Jessica, je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a entre vous quelque chose qui se joue sur ce plan-là. C'est-à-dire que, alors après, je suis pas en train de dire qu'il le fait exprès, mais c'est pour ça que, moi, je vous conseillerais vraiment d'imposer votre rythme, et de voir si ça le fait changer un petit peu. Parce qu'autrement, vous allez être de plus en plus à sa merci. vous avez envie un soir de faire l'amour, faites l'amour le temps que vous avez envie et puis vous le laissez en plan. Il pourra toujours se finir si besoin.
Vous pouvez même en plaisanter et lui demander est-ce qu'il est capable d'un petit coup vite fait. Chiche.
Vous voyez ?
Ah, d'accord.
C'est important parce que sinon votre sexualité elle va se dégrader.
D'accord, mais alors voilà, enfin moi quand j'ai joui, si j'ai envie d'arrêter, il faut pas que je me sente gênée de lui dire non.
Surtout qu'il vous a dit que ce qu'il aimait c'était vous voir jouir. Donc il vous a vu jouir, il est heureux, satisfait, pleinement. Mmh. Voilà.
Mmh. Vous retournez, vous dites bonne nuit mon chéri.
voilà, du fait que s'il a éjaculé ou pas, c'est pas mon problème à moi quoi.
Et bon, non, pour l'instant, c'est plus votre problème.
D'accord.
Et vous verrez que ça va forcément faire évoluer votre relation.
D'accord, ok.
Et puis si vous avez besoin d'autres conseils, vous nous rappelez.
D'accord, merci. Bon après-midi, au revoir.
Je vous en prie, Jessica. Puis je crois que là-dessus, aussi bien Sophie que moi, on est sur la même longueur d'onde.
Hein. On est tout à fait d'accord. Là.
Aucun doute. Ève, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Bonjour. Vous avez testé ce gloss pour plaisir oral, eau de coco. Donc, vous allez nous dire ce qu'on ressent, si c'est vraiment bien. Voilà.
Alors, c'est censé provoquer un effet chaud-froid.
Mm-hmm. Alors,
sensibiliser et exciter les parties intimes. C'est ce qu'on nous dit sur la boîte. Mm-hmm. Et bon, moi, franchement, j'ai pas trouvé une grosse différence entre un gloss normal. Bon, bien sûr, il y a ce parfum de coco qui est agréable, mais il passe très vite. Et ensuite, cet effet chaud-froid, là, c'est comme une sensation de brûlure, en fait. Moi, ça m'a presque brûlé les lèvres.
Ah oui, c'est pas terrible, ça.
Oui, j'ai dû me rincer la bouche tout de suite. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je serais curieuse de savoir la composition de ce produit. Voilà, à part le parfum de coco qui est agréable et qui sent bon... L'effet chaud-froid, ça m'a pas plu du tout.
Non, c'est pas terrible. Bon, bah écoutez.
Quant au partenaire, alors lui, il sent pas la différence. Lui, c'est pas du tout. Je veux dire, c'est censé exciter, hein, d'après la petite brochure. C'est censé exciter les parties intimes. Bon, à lui, ça ne lui a fait aucun effet. Et à moi, ça m'a brûlé les lèvres. Bon. Donc.
Moralité, vous avez vos muqueuses beaucoup plus sensibles que les siennes.
Oui, mais c'est pas les mêmes au même endroit non plus.
Non, bien sûr, mais je plaisantais. Bon, vous me donnez une mauvaise note et puis on n'en parle plus.
On va dire 2 sur 10.
Bah oui, je comprends bien. Ce gloss pour plaisir oral, eau de coco, vous pouvez quand même, si vous le désirez, vous le procurer sur la boutique de l'émission, sur rmc.fr, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Ève, en tout cas. Merci à vous.
Merci, au revoir.
Merci à vous aussi, Sophie Cadalen. Je rappelle le titre de ce dernier livre, Rêve de femme, ce que vos fantasmes disent de vous. C'est aux éditions Le Duc. Dans un instant, on accueille Christophe Médicier. On va parler du chômage dans le couple et on va vous donner quelques conseils. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, l'amour et vous. RMC, Brigitte Lahaie, Love Conseil.
Travailler en couple, alors c'est le rêve pour certains, c'est plutôt un cauchemar pour d'autres. En tout cas, il y a quelques règles d'or à observer pour que ça fonctionne bien, parce que tant que le lien affectif est là, tout va bien, mais dès les premiers conflits, ça peut vraiment devenir très compliqué quand on travaille ensemble. Alors, je crois que d'abord, il faut définir bien le territoire et les responsabilités de chacun. Il faut pas qu'il y ait de flou, même artistique. Il faut également définir bien les heures de travail, sinon les séances sous la couette risquent de se transformer en heures supplémentaires. Ensuite, il y a des réflexions qui sont très utiles, mais qui peuvent vite se transformer en critiques ou en lutte d'intérêts. Donc, il est important aussi d'apprendre à bien communiquer professionnellement, en tête à tête, voire à des moments précis. En quelque sorte, la frontière entre travail et vie de couple n'est pas toujours simple. Donc, chacun doit oser formuler ses limites quand il considère qu'elles ne sont pas respectées. Après, si vraiment vous êtes totalement en symbiose et que vous avez envie de beaucoup parler de votre travail tout le temps, c'est pas un problème, à condition que ça convienne aux deux. Mais pour certains, c'est vrai que le travail en couple, ça peut devenir un élément positif collectif fort, puisque c'est un point commun, c'est une valeur commune. Donc c'est pas forcément négatif de travailler en couple. Mais encore une fois, il est très important de pouvoir poser ses limites si l'un des deux considère que le travail prend trop de place dans la vie du couple. C'est juste cette règle-là qu'il faut absolument respecter. Notre guide aujourd'hui, Christophe Médici, bonjour.
Bonjour Brigitte Lahaye.
Alors je viens de parler de travail en couple et on va faire l'angle complètement opposé puisqu'on va évoquer le chômage. C'est vrai que malheureusement de nombreuses personnes aujourd'hui se retrouvent au chômage. Et ça peut être une vraie crise dans le couple.
Ça peut être vraiment toxique pour les couples. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité dans la mesure où il y a de plus en plus de chômeurs. Malheureusement, il y a à peu près 4 700 000 chômeurs en France. Et si j'osais, je dirais que le couple et le chômage font parfois pas bon ménage. Je dirais que pas toujours, Brigitte. Hein. Disons qu'il y a trois éléments qui vont influer sur le fait que, comme le chômage est toujours une épreuve, peu ou prou pour tout le monde, c'est toujours un moment, un coup dur, on va dire, ça va dépendre, un, de la santé du couple. Au moment où ça arrive, il peut y avoir un couple en très bonne santé, mais aussi un couple qui bat de l'aile depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça dépend aussi de comment les deux vont le traverser. Qui, celui qui évidemment se retrouve au chômage, qui celle ou celui qui va l'aider. Ou pas d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Et puis troisièmement, l'environnement, Brigitte. Dans quel environnement humain baignent ces personnes-là? Et que va dire l'environnement humain aussi, et je pense là en l'occurrence à la belle famille, mais pas que, le cercle d'amis aussi, du fait que l'un des deux, ou les deux, hein, se retrouvent au chômage. Voilà.
Oui, alors je crois que ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que en règle générale, lorsqu'on se retrouve au chômage, bah, c'est une blessure narcissique. Hein, on a tout d'un coup l'impression d'être un peu rejeté, d'être. Alors c'est déjà soi-même qui doit comprendre que c'est des choses qui peuvent arriver aujourd'hui.
C'est ça.
C'est quand même plus banalisé, je dirais, qu'il y a 20 ans.
Oui, vous avez bien raison de parler de blessure narcissique dans le sens où c'est l'estime de soi qui en prend un coup. Un des deux piliers de l'estime de soi étant le sentiment d'être compétent ou compétente. À partir du moment où tu perds ton emploi, rappelez-vous la chanson d'Eddie Mitchell, hein, et la même honte d'aller le dire, hein, la sinistre vérité, il ne rentre pas ce soir, tous nos amis qui nous écoutent se rappellent de cette chanson.
Et il y a beaucoup de gens. Ceux qui ont déjà un certain âge, Christophe.
Non, mais c'est vrai, vous vous rappelez de cette chanson, elle était très touchante.
Moi, oui, mais je ne sais pas si les jeunes de 20 ans.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était l'histoire d'un homme chanté par Eddie Mitchell qui ne voulait pas rentrer, parce qu'il se retrouvait au chômage et qui se disait qu'il était obligé d'aller le dire à sa conjointe. Parce que déjà, il y a ça. Il y a l'idée que toi, tu dois encaisser le coup, et secondo, tu dois aller face à toute ta famille, face... Alors, prenons le cas de Gilles, qui se retrouve au chômage, et qui doit le dire à sa femme, le dire à ses enfants, et il y a ce sentiment qu'il peut y avoir derrière, qui est ce sentiment de honte. Et là, vous avez raison, moi j'ai dit, il n'y a aucune honte à se retrouver au chômage, enfin voyons. D'abord parce qu'on l'a pas demandé, on l'a pas attiré, c'est pas soi-même qui est responsable d'une entreprise qui va dégraisser. Hein. Les réducteurs de coûts sont souvent des réducteurs de tête. Alors après, la question, elle est comment? Alors, prenons le cas de Gilles. Comment sa conjointe Aline va-t-elle réagir? Et là, voilà. Il y a une étude de l'INED, Brigitte, qui dit que c'est souvent plus préjudiciable lorsque le couple est un couple jeune, qui a peu d'années ensemble. Ça a été vu. Parce que souvent, c'est ça qui est terrible, ça va être pour lui la double peine. Si, alors qu'un couple se serait de céder, c'est de s'épauler, surtout dans les coups durs, Aline va, au bout de quelques semaines, quelques mois, très vite, lui envoyer des messages toxiques, hein, du style de dévalorisation. Bah alors moi, j'avais épousé un ingénieur et maintenant j'ai quelqu'un qui pointe à Pôle emploi. Moi, je te voyais ambitieux et là, c'est terrible, Brigitte. Et ça peut faire des dégâts.
Il y a ça, oui, bien sûr, il y a les phrases toxiques. Oui. Et puis, il y a aussi le fait que ça change la vie du couple. C'est-à-dire que si l'un des deux se retrouve au chômage, il se retrouve beaucoup plus au domicile. Et si, par exemple, l'autre avait l'habitude d'être tranquille et que finalement, il se retrouve en huis clos, si je puis dire, ça peut aussi dégrader
le couple. Du couple qui a réinstitutionnalisé. On pouvait se voir, Lucille était directeur commercial, était tout le temps aux quatre coins du monde. Là, maintenant, il va être là 7 jours sur 7, 30 jours sur 30. Et comment va-t-elle le supporter ou pas? L'image qu'ils vont avoir l'un de l'autre va pas être la même. Je crois vraiment qu'il y a vraiment, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, faites attention quand même quand votre conjoint ou conjointe se retrouve au chômage. C'est déjà, vous le disiez Brigitte, une blessure narcissique. N'en rajoutez pas. De grâce, n'en rajoutez pas,
oui,
en dévalorisant
ou en culpabilisant. En même temps, il faut pas non plus commencer à avoir pitié, quoi. C'est ça qui est compliqué.
C'est le savant dosage.
Et c'est pour ça que c'est vraiment, enfin je veux dire, il faut pas négliger.
On va peut-être donner quelques coachings tout à l'heure.
Oui,
ou deux trois idées.
Bon, d'accord.
Deux trois idées.
Mais tout de suite, vous voulez
tout
qu'on
suite,
accueille
voulez...
notre fille d'Ariane, c'est ça?
Je la vois arriver là.
Ben oui. Ben oui.
Ah, j'ai pas envie d'être au chômage, moi. Il faut que je garde ma place.
Sous le charme d'Ariane, Christophe Midici nous propose quelques conseils, mais dans quelques instants. Et donc, on va continuer, mais ça, c'est pas désagréable de connaître tous les fantasmes des Français.
C'est pour ça qu'il était intéressé de connaître le contenu de ces grandes révélations. Ben oui, cette fois-ci, Brigitte. Je me suis intéressée à cette enquête sur le sexe et comprendre un peu mieux ce vers quoi les Français s'orientaient au niveau fantasme, si on devait généraliser. Et en gros, c'est le terme « exhibition » qui ressort en 2016. Pourquoi ? Plus de 3 Français sur 4, 76% très exactement, se sont déjà livrés à des jeux ou des ébats sexuels en plein air ou dans des lieux publics. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième...
Sans oublier toutes les exhibitions virtuelles.
Voilà.
Justement, on en parlait, Brigitte, dans mon livre Homo Connecticus, n'est-ce pas, Ariane? Je dis bien, les exhibitions virtuelles, maintenant, ils utilisent ça, les hommes, pour faire on sait quoi, de la masturbation, et c'est une espèce de exhiber continuellement son truc, mais c'est à longueur de réseau social, ça, hein, Ariane.
Alors, c'est vrai, quel que soit le réseau utilisé, que ce soit Messenger, que ce soit Twitter, que
Periscope.
Ce soit Periscope, Skype, MSN, tout est prétexte à devoir se montrer une partie de sa peau ou l'intégralité de son corps nu. Et ça touche surtout les moins de 25 ans. C'est ça ce qui est vraiment nouveau cette année. 35% de moins de 25 ans a déjà reçu des photos vidéo à caractère sexuel. 25% a déjà envoyé des photos vidéo de nu ou complètement dénudé, et puis ou partiellement pardon dénudé, et 22% des Français ont déjà fait l'amour virtuellement par rapport à nos voisins européens. Il paraît que les Français sont assez forts pour ça, se donner du plaisir à distance par caméra interposée. On est assez forts là-dedans. Et pour les lieux qui révèlent encore l'exhibition, eh bien c'est la voiture qui plaît beaucoup, 85% sur la banquette arrière, c'est ça qui plaît. Et plein air, et plus particulièrement...
Hein.
Oui,
alors... Rassurez-moi.
Alors, quelque part, c'est recommandé, même si parfois, il s'avère que je prends le taxi, Brigitte, parfois, et souvent, je leur demande, mais qu'est-ce qui vous est arrivé le plus insolite dans votre taxi? Et évidemment, très souvent, on me raconte des histoires d'amants, de maîtresses qui se retrouvent à l'arrière du taxi et qui...
D'où la réussite de la chanson
charnel.
Des Chevaliers du Fiel dans la Cime Camille, voilà. N'est-ce pas, qui était devenue un tube national.
Voilà, donc, c'est l'exhibition, plus que le voyeurisme en soi, c'est vraiment se montrer son encore à tout prix.
Oui, mais enfin, si on s'exhibe, il y a forcément des gens qui regardent. Hein.
Évidemment.
Il me semble. Mais je ne comprends pas comment on peut s'exhiber comme ça, moi. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr nous appeler si vous avez besoin de conseils ou si vous avez une question à poser à Christophe Médici qui est avec nous et qui évoque le couple et le chômage. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, La Haye, l'amour et vous. RMC, La Haye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Nous sommes avec notre guide aujourd'hui, Christophe Médici, et on évoque le couple et le chômage. Donc, voilà, on est suspendu à vos lèvres. Les conseils, Christophe Médici.
Alors, oui, parce qu'on a dit ce qu'il fallait pas faire, il faut dire maintenant ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut communiquer ensemble. Alors, parlons du fait que ce soit l'homme, parce qu'on sait qu'il y a plus de problèmes lorsque c'est l'homme qui se retrouve au chômage, Brigitte. Il y a encore cet inconscient collectif, vous savez,
l'homme
pourvoyeur.
Oui, bien sûr, c'est culturel.
Oui, c'est culturel. Et donc, la problématique d'un homme se retrouve en chômage est plus grave que quand c'est la femme. D'abord, je pense sincèrement qu'il faut aller vers la psychologie positive. Vous savez que c'est ma marotte, hein. Communiquer ensemble, se fixer des objectifs quotidiens. Et là où vous aviez raison, c'est que c'est pas parce que quelqu'un se retrouve là-dedans qu'il faut jouer au sauveur. Parce que le danger, c'est aussi se mettre sur la case sauveuse en étant là comme ça et comme si c'était une victime. C'est pas une victime.
Ou bien, vous savez ce que peuvent faire parfois certaines femmes parce qu'elles ont aussi un salaire et dire, écoute, c'est pas grave, parce que ça peut être très grave et entendre dire c'est pas grave, c'est déjà une incompréhension.
Tout à fait.
Et ça va donc faire que l'homme va s'enfermer dans sa grotte, comme on dit souvent. Donc attention à ces phrases qui se veulent gentilles
et
qui sont finalement aussi toxiques.
D'autant plus qu'il faut effectivement se prémunir des personnes toxiques, savoir gérer les personnes toxiques, c'est-à-dire quoi, la belle-mère ou la belle-famille qui va envoyer des messages.
Vous avez des problèmes avec les belles-mères, vous, Christophe Médici.
Ça m'est arrivé très souvent. Non, mais c'est vrai que la belle-mère peut déjà en envoyer plein en disant t'as vu, je t'avais dit, pas se marier avec lui, regarde dans quel état il arrive. Parce qu'il y a cette idée, vous parliez tout à l'heure, Brigitte, quand même.
Et le couple doit être soudé.
Non, mais il y a l'idée du train de vie, Brigitte. Le chômage va amener quelque chose qui va faire. Souvent, c'est d'ailleurs un signe pour un couple, ça va être un révélateur. Pourquoi s'est-elle mariée avec moi? S'est-elle mariée pour ce que je suis? pour ce que j'ai ou pour ce que je représente. Parce que si c'est fini le golf et le bridge et les vacances à Saint-Tropez, je reviens encore sur ma chanson.
Mais là, vous parlez quand même de
non mais bon, mais il y a quand même non mais couple. Quelles que soient les coupes, de toute façon, quand il y a une perte d'argent, il y a une baisse de train de vie de toute façon. Hein. Et là, je pense que il y a des femmes, on en parle souvent, qui malheureusement, ça génère des ruptures, le chômage. Il y a des femmes qui partent, Brigitte. Il y a des femmes qui partent.
Oui, mais je serais moins dur que vous, tout en vous donnant raison. Je pense que il y a intrinsèquement dans l'inconscient féminin un besoin de sécurité.
C'est vrai.
Et c'est ce besoin de sécurité qui est mis en danger si l'homme se retrouve au chômage.
C'est vrai,
voilà.
Aussi.
Et c'est ça que la femme doit aussi comprendre et réaliser si ce besoin de sécurité est réellement mis en danger ou pas. Parce que parfois c'est le sentiment qu'il est mis en danger alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est aussi à la personne du couple qui n'est pas au chômage de réaliser ça. Parce que sinon, ça prend
d'ampleur inutilement. Vous le disiez tout à l'heure lorsque vous parliez en amont, l'idée c'est de voir comment la cohésion de couple finalement peut s'améliorer aussi dans un événement comme ça. Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit...
C'est sûr qu'on peut, quand on dépasse une crise en couple, le couple devient plus fort.
Il y a un dicton populaire qui dit, à quelque chose, malheur est bon. Ça peut être aussi l'occasion, vous le disiez tout à l'heure, de nous retrouver, de passer plus de temps ensemble, de finalement se rendre compte qu'on peut créer quelque chose ensemble. Vous parliez de ces couples que j'appelle parfois les couples PME, moi, qui finalement vont se mettre à faire un projet commun, à travailler ensemble. Imaginez que Gilles et Aline, finalement, ils montent, je ne sais pas moi, une maison d'hôte. Voilà, ils montent un restaurant. Et donc ce moment de chômage va être aussi un moyen de voir que la cohésion du couple parfois se délite et parfois peut se renforcer. Puis il y a autre chose que j'ai envie de dire aussi, et ça c'est important, il faut se prémunir de la plainte et des personnes négatives. Déjà que la personne, vous parliez tout à l'heure, un homme peut se replier sur lui-même et ne même pas vouloir d'aide. Parfois même, il y a des femmes qui nous disent, il a refusé qu'on continue à voir tous nos amis du couple parce qu'il voulait pas, il y avait une espèce d'orgueil qu'il voulait plus avoir comme ça. Mais arrêtons la plainte. La plainte, ça génère des énergies négatives. Et les messages négatifs, les personnes négatives, c'est pas bon. Donc faites attention aux personnes que vous côtoyez lorsqu'une personne se retrouve au chômage. Parce que c'est pas vrai que c'est une fatalité. Il y a des gens qui s'en sortent et qui s'en sortent en faisant mieux.
Oui, tout à fait. C'est un moment, moi j'ai presque envie de dire, c'est un moment où on doit un petit peu se recentrer sur soi et se dire au fond, qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'arrive? Et on peut en faire en effet quelque chose de positif. C'est ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a intérêt, nous, à transmettre, du positif.
C'est hein.
Le négatif, c'est facile.
Dans le livre de Martin Seligman, La force de l'optimisme, il y a une phrase très belle qui dit « Le pessimiste voit en toute opportunité une épreuve, l'optimiste voit en toute épreuve une opportunité. » Je crois d'ailleurs qu'elle était Churchill, cette phrase. Eh ben, elle est belle. Oui, c'est une épreuve. Eh bien, une épreuve peut être une opportunité. Et ça, je le dis à tous nos amis qui nous écoutent. C'est-à-dire que c'est une opportunité aussi de te révéler et de révéler le couple autrement.
Oui, et parfois de partir sur un autre projet de vie, sur un autre boulot,
bien sûr, un couple c'est quand même aider l'autre à s'aimer mieux chaque jour. Vous et moi on aime le docteur Leleu, c'est une des plus belles phrases de l'écologie de l'amour. Si c'est pas... Alors, excusez-moi chers amis, mais est-ce qu'on aide l'autre à s'aimer mieux chaque jour quand déjà lui-même s'aime moins parce qu'il se retrouve au chômage et si vous lui balancez des messages toxiques? Enfin voyons, soyons honnêtes.
Alors il y a aussi un élément qu'il faut que l'on aborde, Christophe Médicis, c'est ce qu'on dit aux enfants. Je crois qu'il faut pas inquiéter les enfants. Encore une fois, faut les rassurer en disant bon c'est pas grave, t'inquiète pas, voilà, parce que ça c'est aussi pour les enfants, ça peut aussi être quelque chose de très difficile.
Et quelle image du père? Si la femme le dévalorise, quelle image du père? D'ailleurs, t'as vu ton père? Ben alors voilà, il est depuis des mois à la maison. Parce qu'il y a aussi ça, Brigitte, qu'on doit aborder. C'est combien de temps va durer le chômage? Parce qu'il y a une personne qui se retrouve au chômage mais qui retrouve du travail deux mois après. Mais il y a une personne qui est dans le chômage longue durée. Et là, dans la longue durée, plus c'est la longue durée, plus l'estime de soi tombe à la cave. Et à un moment donné, je pense que ça peut être l'occasion aussi de découvrir sa mission de vie et se dire ok, et si je faisais autre chose? Et si je faisais autre chose? Je crois que tous les coachs américains disent ça. Le travail sur soi, et je sais que vous comme moi, on aime ça, le travail sur soi, qu'il soit psy, spi ou développement relationnel ou personnel, c'est tout aussi important que le travail. Et peut-être même que tu vas trouver un autre travail qui est plus en phase avec tes valeurs, parce que tu auras mis à profit ce moment de chômage pour travailler sur toi.
Pour se recentrer, comme
exactement.
Je le disais tout à l'heure. Alors, Olivier veut aussi transmettre un message positif. Bonjour, Olivier.
Merde. Allô ?
Oui, bonjour, Olivier.
Oui, bonjour. Non, je pas...
Alors, vous êtes avec nous ou pas, Olivier?
Oui, je suis avec vous, mais je vous entends de l'autre côté. Alors, je vais couper, parce que ça fait un retour.
Ça serait peut-être mieux pour tout le monde.
Voilà. Non, parce que si sort de chômage, etc., je trouve ça un peu nul, parce qu'il faut laisser le choix. C'est-à-dire, moi, je suis à ma chaîne depuis 15 ans, d'accord ? Et quand elle me dit, eh ben non, j'arrête, je démissionne, je me casse, et il faut laisser le choix. Le chômage, c'est pas une tare, c'est pas non plus une sanction.
Mais on n'a pas dit ça,
Olivier. On est entièrement d'accord avec vous,
On a juste dit que c'était une épreuve. Je veux dire, c'est jamais...
C'est une épreuve, mais quand elle est choisie... Quand elle est choisie...
Mais là, c'est pas, si on choisit d'arrêter son travail, c'est pas la même chose que de se retrouver au chômage. Je pense qu'il faut faire attention aux mots.
Attention, mais il faut choisir aussi le fait de gagner moins. Ça veut dire, à la limite, je passe de 1000 balles à 500 balles. D'accord.
Oui, mais encore une fois, excusez-moi Olivier, on parle pas de la même chose. Vous parlez de quelqu'un qui, pour des raisons...
Le chômage subi. Mais on l'a tous subi, le chômage.
Non,
ben non pas tous.
Ouais, quand même, pas mal de monde. On se fait tous virer à un moment ou à un autre.
Mais dites donc, vous deviez nous transmettre un message positif. Excusez-moi, mais il n'est pas très positif, votre message, Olivier. Je suis désolée. Non, je crois qu'on ne peut pas laisser dire que, d'abord, tout le monde n'est pas touché par le chômage. Et ensuite, on peut en effet décider de quitter un emploi pour un emploi qui sera peut-être moins bien rémunéré. Mais encore une fois, je pense que tout le monde n'est pas non plus en train de chercher à gagner toujours plus et encore plus. Ça, chacun a ses propres valeurs, et je crois que le mot valeur là prend tout son
très
sens.
Très important, ouais. Très important.
Alors, écoutez, on a toujours beaucoup de gens qui appellent au dernier moment, mais il nous reste très peu de temps. Wilfried, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Moi je voulais passer un petit message. J'ai été en couple avec mon ex-copine quand j'ai perdu mon boulot. Ça a été un peu dramatique parce que l'argent ne rentrait plus.
Bien sûr.
Donc du coup, il fallait que je retrouve quelque chose. Donc j'ai toujours des petits pics en me disant que quand ça m'avait connu, je travaillais et que par la suite j'avais perdu mon boulot, c'était un peu plus compliqué. Donc l'argent ne rentrait pas et c'était compliqué pour le couple. Et donc on s'est séparés. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé une personne formidable. J'ai eu un problème aussi encore d'emploi, mais c'est passé super bien, quoi. J'ai rebondi, j'ai retrouvé un travail et il n'y a pas eu de problème de couple. Donc je pense que c'est vraiment par rapport aux personnes elles-mêmes, c'est dans la tête en fait.
Oui, et puis c'est du cas par cas. Vous êtes le même homme et pourtant vous avez eu deux femmes qui n'ont pas réagi de la même manière.
Donc, ce que disait Wilfried, c'est ça. C'est ce que je disais. Ça dépend vraiment de la manière dont on réagit lorsque ça arrive à l'autre. Et les gens sont uniques en la matière. Il faut vraiment être positif lorsqu'il arrive quelque chose de négatif à l'autre. Un couple, c'est comme un double mixte au tennis.
Mais ça dépend comment soi-même on ressent aussi les choses. Et je parlais de ce besoin de sécurité que ça, ont beaucoup de femmes. Et c'est vrai que pour beaucoup de femmes, ça
leur fait peur. Ça les angoisse.
Mais il faut qu'elles en prennent conscience et qu'elles puissent éventuellement en parler plutôt que de critiquer l'autre. Évidemment, c'est toujours pareil, hein. Il faut d'abord revenir à soi et ensuite pouvoir communiquer avec l'autre. Mais ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer tous les jours. Et il y a encore du boulot.
Il y a encore beaucoup de travail.
En tout cas, merci beaucoup, Christophe Médici. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Homo Connecticus, aux éditions d'Angle. Vincent Moscato, bonjour.
Bonjour. Brigitte, eh bien l'euro, est-ce qu'on peut y croire quand même? Parce qu'hier, on a fait un 3-2 contre le Cameroun avec... quand même des soucis en défense qui nous laissent... C'est une défense en chamallow, c'est du chamallow la défense. Alors ils vont peut-être se régler. Documentaire Génération Zidane sur RMC, découverte ce soir, on va en parler. Le scoop sur Cantona, on va se régaler. Puis alors du Moscaza, Roland Garros sous la pluie, on en parlera avec Sarah Piposki qui est habillée comme un marin pêcheur.
Allez, on se retrouve demain avec Stéphane Clerget, demain.
Sur RMC, ne ratez rien de La Haye, l'amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.